France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
7 mois de détention pour Christophe Glaize en Algérie pour avoir voulu écrire sur le football. Le journaliste est toujours sous le coup d'une condamnation à 7 ans de prison pour marquer ces 7 mois de détention, maintenir la mobilisation. Une grande soirée est prévue demain au Bataclan à Paris. Avec nous, nous avons sa famille et Reporters sans frontières aussi. Emmanuel Macron et la diplomatie des lunettes Top Gun. Est-ce que ça marche? Eh bien, possiblement oui, c'est ce que nous racontera Claude Guibal qui remet le monde à l'endroit. Quand une ville, autrefois fief de la guérilla des FARC en Colombie, devient un lieu très prisé des touristes. C'est l'histoire du reportage de ce soir.
Je savais déjà que dans cette région, il y avait une problématique liée au conflit armé, mais apparemment c'est réglé maintenant. C'est super calme.
À découvrir ensemble autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Royaume-Uni et ce mot d'ordre, sauver les pubs. Et juste avant 19h, c'est Écrire le Monde avec Ilana Mor-Youssef qui lit et relit en fonction de l'actualité. Ce soir, c'est la nouvelle première ministre japonaise qui a fait plonger Ilana dans sa bibliothèque. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Bonjour, ici c'est Rayo Libera. Il faut libérer Christophe Glaize, justice pour Christophe, n'oublions pas.
Bonjour, je suis Benjamin Biolay, je voulais faire savoir à Christophe Glaize que je pense beaucoup à lui et que j'espère sa libération la plus rapide possible.
Ça, c'est un extrait de la campagne officielle de Reporters sans frontières en soutien à Christophe Glaize. On a reconnu Rice, c'est le footballeur. Et puis évidemment, Benjamin Biolay, bonsoir. Sylvie et Francis Godard.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là tous les deux avec nous. La mère et le beau-père de Christophe Glaize. Bonsoir, Antoine Bernard.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du plaidoyer et de l'assistance à Reporters sans frontières. Je le disais, demain, ça va faire 7 mois que Christophe Glaize est détenu en Algérie pour avoir voulu donc raconter le football algérien. À cette occasion, pour que la mobilisation soit toujours là, RSF organise donc au Bataclan une soirée de soutien, il y aura Alex Baupin, il y aura Jeanne Chéral, il y aura Malik Djoubi, il y en aura d'autres, il y aura des footballeurs, la Fédération Française de Foot, la présidente du comité olympique aussi, beaucoup de prises de parole. Maintenir la pression, maintenir la mobilisation, Sylvie Godard, c'est un message envoyé à l'Algérie, bien sûr, on baisse pas les bras, mais c'est un message aussi envoyé à votre fils, envoyé à Christophe, il faut qu'il le sache aussi que cette mobilisation ne faiblit pas. Je suis sûre qu'il le sait d'ailleurs.
Exactement. C'est très important pour nous qu'il sache combien la mobilisation populaire aujourd'hui en France est très importante, qu'elle s'est développée depuis sa condamnation en appel encore plus, et qu'il y a maintenant le monde du football, d'autres mondes comme le rugby qui participent. Et pour nous, c'est vraiment un soutien énorme. Et je sais qu'il en est très ému et qu'il ne se sent pas du tout seul à entendre tout ce qui se passe autour de lui en France.
Parce que c'est vrai que ce qui est compliqué, et je vous pose au fond la question à tous les deux, c'est à la fois maintenir la mobilisation, mais aussi ne pas trop en faire, ne pas trop faire de bruit. Il y a un équilibre qui est un équilibre fragile à trouver quand on discute avec des autorités aussi complexes que les autorités algériennes, Francis Godard.
Pas faire de bruit ici, on va en faire encore plus de bruit, on en fera de plus en plus d'ailleurs, donc on ne lâchera rien. Et donc la soirée de demain soir, ça va être une étape importante, mais on ne lâchera rien. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on va aller voir, rencontrer Christophe à Tizi Ouzou, puisque nous partons en Algérie, Sylvie et moi, samedi prochain, et que nous allons le rencontrer à la prison pour le 2 février, pour son anniversaire. Et on va bien lui expliquer qu'on ne lâche rien et qu'on ne lâchera rien. Donc ça, c'est quand même le message qu'on va lui passer, parce que ça lui donne de la force. Mais c'est aussi un message qu'on donne à tout l'environnement politique français et algérien, on ne lâchera rien.
Ben ça, on a compris que vous ne lâcherez rien. Finalement, vous avez à peine besoin d'intervenir, Antoine Bernard, à RSF maintenant. La famille est hyper bien rodée là-dessus.
Ah, la famille est formidable. Et on se lève d'ailleurs de plus en plus tôt tous les matins, grâce à elle, pour être à sa hauteur. Le président Tebboune a sur son bureau, depuis le 10 décembre dernier, une lettre signée signée de Sylvie, une lettre de demande de grâce pour Christophe. Ça, c'est l'actualité, ça, c'est important, c'est à ça qu'on attend une réponse. La période serait propice, ce serait le moment de le faire. Les semaines qui viennent peuvent s'avérer décisives. Mmh. On parle pour fin mars, début avril, d'une visite du pape en Algérie. Mmh. On sait que le 11 juin, c'est la Coupe du Monde de football qui commence et que l'Algérie est qualifiée. Ce sont des moments où, sûrement, et on pourra y veiller, ce sera plus difficile. C'est un moment qu'il faut saisir, ce moment... ces jours-ci.
Ça veut dire que... c'est là toute la difficulté, c'est un peu ce que je disais aussi sur faire du bruit un peu, faire du bruit beaucoup, discuter ou pas, c'est qu'il faut jamais se laisser polluer, c'est peut-être ça qui est compliqué d'ailleurs, par les événements extérieurs, par les à-coups. En fait, il y a un à-coup parce qu'il y a un reportage qui ne plaît pas, et puis ça revient. Et puis il y a un autre à-coup sur des histoires de diplomates à droite et à gauche. Et puis il y a un troisième à-coup sur une loi sur la criminalisation de la colonisation. Jouer avec ces à-coups-là, Sylvie Godard, ça c'est des vraies montagnes russes émotionnel quand même, et pour vous j'imagine.
Totalement, c'est des montagnes russes parce que une semaine on pense qu'il y a un apaisement dans les relations franco-algériennes, puis ensuite il y a un événement qui dit que les relations se crispent. Mm-hmm. Donc c'est très difficile pour nous de maintenir cette relation et d'être dans une stabilité, mais pourquoi on le fait ? Parce que chaque matin, quand on se lève, il y a le comité de soutien qui est là. Ce sont des gens jeunes qui ont des idées qui fusent à la minute. Et ça, ça nous tient debout. Et ça, c'est formidable.
Là, vous allez reprendre l'avion, c'est ce que disait votre mari à l'instant. Donc c'est toujours ça le tarif, si je puis dire, hein, c'est 30 minutes tous les 15 jours, ça n'a pas changé ou pas, hein?
Tout à fait, 30 minutes dans un parloir, avec une
vitre. Un plexiglas.
C'est ça qui est le plus difficile. Mmh. On ne peut pas le prendre dans nos bras, ça c'est compliqué. Je n'ai pas eu de relation physique avec Christophe depuis octobre 2024.
Mmh. Pas de lettres non plus, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Par contre, il se maintient en forme physique et en forme mentale. C'est un très grand lecteur. Aujourd'hui, on le sait par le cardinal Vesco qui lui a rendu visite. Il est en train de lire un livre qui le passionne, qui est L'homme sans qualité de Robert Musil.
Eh bien écoutez, comme quoi. Et qui lui amène d'ailleurs du coup ? Mais est-ce qu'il peut passer commande ? Enfin, quand vous arrivez, vous pouvez prendre des bouquins dans votre besace et lui amener ? Ou pas ?
Ben oui.
Allez-y, Monsieur Godard.
On peut toujours lui amener. On ne sait pas ce qui lui sera remis en Suisse. Ouais. Donc, il est évident que la censure sera quand même là pour surveiller ce qu'on lui remet. Donc, on s'arrange pour ne pas lui remettre des livres trop épais, si possible. Et on fait attention aussi à ce que rien dans le titre du livre ou la quatrième de couverture puisse faire monter la suspicion sur le contenu du livre. Mais bon, donc on amène le livre et puis on ne sait pas trop ce qui va lui être remis en fait.
Est-ce que vous avez, je sais que vous écrivez, vous avez une espèce de journal de bord, Sylvie Godard, depuis que votre fils est en prison. Vous allez évidemment lui donner. Moi, je me demandais ce que vous lui disiez de l'actualité, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le monde quand on est journaliste et qu'on est coupé de l'actualité du monde, c'est comme si on vous coupait un bras un peu. Vous lui racontez tout ça ou est-ce que c'est...
On lui raconte, oui, tout à fait, dans ce journal. D'abord, c'est une manière de rester en contact tous les jours avec lui. Et on lui raconte parce qu'effectivement, il a la télé algérienne, donc avec pas de traduction. Mm-hmm. Donc, c'est difficile pour lui à partir des images. Donc, effectivement, quand il y a des grands événements, comme en ce moment... Ouais. L'actualité est assez dense.
Je vais vous demander si vous lui parliez de Trump, vous allez y passer des heures.
Et là, je dois dire qu'il y a eu, ces derniers jours, il y a eu les correspondants étrangers des syndicats nationaux de journalisme qui m'ont écrit une lettre que je vais envoyer à Christophe, où ils donnent tous les événements sportifs très importants qu'il y a eu cette année, pour qu'ils ne perdent pas le fil de l'actualité.
Bien sûr, et la CAN et le reste, et c'est important pense surtout Antoine Bernard, parce que les soutiens d'ailleurs on les a vus monter. Alors bien sûr on pourrait épiloguer encore une fois sur les très grands noms du foot, il y en a d'autres, il y a du monde quand même derrière, y compris dans ce monde du foot.
Oui, il y a du monde, y compris dans ce monde du foot, mais c'est vrai que ce qui nous...
Ça vous chagrine toujours cette histoire de Zidane,
oui,
et les autres en fait.
Oui, on aimerait bien que les très grandes voix du foot disent tout simplement nous partageons le combat pour la liberté de Christophe Glaise, ici et maintenant. Bon, on les attend toujours. Mais il y a une mobilisation populaire qui monte et qui monte très très vite, puisqu'au fond, on a vraiment poussé les machines depuis le 3 décembre 2025, c'était il n'y a pas si longtemps, et on voit les clubs, au niveau des clubs, au niveau des fédérations, au niveau des municipalités, des collectivités territoriales, tous les jours maintenant, absolument tous les jours. Donc le cas de Christophe devient très connu du grand public, ça c'est formidable, on en a besoin, de la même façon qu'on a besoin, et je crois qu'avec la famille de Christophe, avec Sylvie, Francis, Maxime, son frère, Valentine, sa compagne, on est parvenu à susciter un soutien transpartisan autour de Christophe. Ça c'est évidemment fondamental, parce que Christophe n'est qu'un journaliste.
Ouais, c'est marrant comme vous dites, on est parvenu à le faire, ça veut dire que c'était pas évident d'emblée que ce soutien soit transpartisan. Enfin, on voit bien la difficulté, y compris des relations avec l'Algérie, les montagnes russes, c'est aussi pour notre politique. Mais enfin, la manière dont vous le dites, ça te dit que c'était pas évident.
Non, c'était pas évident, et puis ça se regarde comme le lait sur le feu, jour après jour, chaque jour amène sa tentation de divisionnisme. On a construit, je crois, et il faut tenir autour de Christophe, une approche de soutien transpartisan, unanime. Pour l'instant, c'est le cas, et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que ce soit entendu à Alger, où on sait qu'on est écouté, où on sait qu'on est regardé, scruté, et maintenant, il faut que ça se traduise très concrètement par le fait que Christophe puisse enfin, ici, venir serrer dans ses bras Sylvie, et à Agen, Mamie Jo, et à Paris, Francis.
Et c'est pour ça, Sylvie Godard, que dans cette demande de grâce que vous avez faite, la fibre que vous essayez de toucher, mais je suis convaincue que ça a vraiment du sens, c'est juste la fibre humanitaire, c'est mon fils, je suis sa mère, c'est là-dessus que vous avez appuyé, et en insistant vraiment sur cette fibre-là, en fait.
Tout à fait. Je sais que le président Tebboune a une grande famille. Il peut comprendre que c'est l'appel d'une mère qui est séparée de son fils. Christophe n'est pas du tout coupable de tout ce qu'on l'accuse, et donc il faut à tout prix le libérer, et c'est ce geste d'humanité que j'ai demandé au président Tebboune.
C'est ça, vous ne mettez pas dans cette lettre mon fils n'a rien fait, c'est rendez-moi mon fils, et c'est ce qui fait toute la différence.
Exactement.
Est-ce que vous avez vu, Francis Godard, une baisse de morale, j'imagine, après l'appel, et vous l'avez vu remonter immédiatement, Christophe Glaise, à ce moment-là? Est-ce qu'il a fallu insister beaucoup pour que le moral reste ou pas?
Oui, c'est sûr que à la suite du jugement d'appel, on en a tous pris un coup, parce que il semblait quand même, en tout cas pour qui c'était notre cas, pu assister aux 9 heures de procès, il semblait absolument évident que tous les arguments de l'accusation ont été réfutés, aucun ne tenait debout, donc il semblait évident à tout le monde que Christophe allait être libéré. Donc il ne l'a pas été, et effectivement il y a eu un petit moment un peu difficile à vivre. Mais vous avez fait une remarque tout à l'heure qui me paraît importante pour essayer de comprendre ce que l'on vit. C'est que on est actuellement dans une situation où la situation de Christophe semble dépendre d'événements qui le dépassent et qui nous dépassent totalement. Alors avec des hauts, avec des bas, et il faut avoir les nerfs solides pour arriver précisément à tenir le coup dans une situation où il y a des forces qui s'opposent et qui nous dépassent totalement.
Et c'est probablement avec des soirées comme celle de demain qu'on arrive à avoir les nerfs solides, avec ce que vous disiez, avec les soutiens, avec la perspective aussi de prendre l'avion. On le redit parce qu'il reste des places, Antoine Bernard, au Bataclan, demain soir. Ça commence à 20h et il y a du beau monde.
Oui, il y a du beau monde et on est pas complet, pas encore, donc
pas tout à fait,
venez, rejoignez-nous, et puis Alex Baupin, Mathilda, Malik Judy, Elephant, Yuxek, Jeanne Chéral, formidable, Philippe Diallo, le patron de la Fédération Française de Foot, Amélie Oudéa-Castara, la patronne du Comité National Olympique et Sportif Français, bref, il faut être là.
Allez, si vous êtes de passage à Paris ou si vous êtes parisien, ça se passe au Bataclan, c'est demain soir, je vous remercie chaleureusement, tous les deux, tous les trois, d'être venus nous voir dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. La suite, c'est vous, Claude Guibal, vous remettez le monde à l'endroit.
Oui, avec un accessoire, des lunettes de soleil et la Top Gun, et la France qui assume une nouvelle posture diplomatique.
Allez, juste après ça.
Ngonda, All About Me, un habitué de la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, c'est Claude Guibal ce soir.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Claude avec ses lunettes de soleil genre Top Gun, très commenté. Emmanuel Macron inaugure-t-il une nouvelle ère, celle de la diplomatie des lunettes?
Alors en fait c'est vrai qu'au départ c'est juste un détail. Hein. Emmanuel Macron à Davos avec des lunettes de soleil vert miroir sur le nez, mais ces lunettes, eh bien il les porte lors d'un discours très frontal face à Donald Trump. Souveraineté, refus de la dépendance, et il martèle cette expression « for sure » avec un accent français très assumé. Alors le lendemain, Trump se moque, des lunettes, de l'accent, d'Emmanuel qui la joue dur à cuire, jusqu'ici rien de neuf, sauf que cette fois-ci, eh bien la France répond, et elle répond pas avec un communiqué de 4 pages, elle répond avec « French Response », c'est le compte officiel du Quai d'Orsay, le deuxième compte officiel créé en 2025 pour contrer la désinformation. Il adopte les codes de X, ironie, punchline, image simple, et là, quand Trump se moque de l'accent, eh ben, French Response ne se crispe pas. Au contraire, il en rajoute et il reprend le fameux for sure.
Et ça fait donc le tour de la planète.
Des millions de vues pour ce compte de 145 000 abonnés. C'est bien moins que le compte classique du Quai d'Orsay. Mais alors, c'est 10 fois plus efficace et la presse internationale se régale. Le Daily Telegraph explique que Davos, d'habitude, c'est un carnaval d'hommes ennuyeux, en costume ennuyeux, mais que cette année, avec Trump, Milei et autres, eh ben, c'était un concours de testostérone. Et au concours du mal alpha cette année, ben pour le télégraphe, devinez qui a gagné, eh bien c'est Emmanuel Macron, justement, avec ses lunettes Tom Cruise pour le Toronto Star. Macron, d'habitude, c'est le camembert, eh bien là, c'est Top Gun.
Et alors, pourquoi ça marche?
Eh bien, Fabienne, parce que les relations internationales, on le sait, hein, c'est pas simplement de la négociation en coulisses, c'est aussi, et beaucoup, on en parle souvent ici, une question de posture, ça envoie des messages, c'est pas nouveau, hein. Les costumes occidentaux de Deng Xiaoping dans les années 70, signalaient l'ouverture à l'Occident de la Chine. Le treillis de Zelensky, eh ben, c'est la guerre. Alors, ces images, elles circulent, le récit s'impose, et avec les lunettes Top Gun, la référence, eh ben, elle est immédiate, maîtrise, distance, virilité. Elles viennent surligner un discours dur. Et puis, il y a l'autodérision, parce que ça, c'est pas vraiment un sport national en France. On a plutôt la réputation d'être arrogant et moralisateur. Là, on casse le récit, c'est drôle, c'est accessible, c'est visuel, ça casse l'image poussiéreuse d'un Quai d'Orsay où on chuchote dans les salons. On pourrait presque appeler ça la diplomatie performative numérique. l'heure est à la brutalité, très bien. Dans un monde brutal, on adopte les codes de l'adversaire. C'est ce que fait aux États-Unis le gouverneur de Californie, hein, Gavin Newsom, qui, face à Trump, tweet comme lui, avec des majuscules, des provocations, des messages courts. C'est la même brutalité assumée. Bref, on parle à l'opinion, on construit un récit, on occupe l'espace.
Sauf que ça a ses limites.
Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est juste l'arène, hein, c'est le cirque, les sanctions, les alliances, les rapports de force. Ça ne se négocie pas sur X, et le risque, c'est que plus on adopte les codes de l'adversaire, plus on s'expose à l'escalade. Et après, c'est un peu difficile hein, de revenir à la diplomatie discrète. La diplomatie des lunettes, c'est le symptôme d'un monde plus dur, plus frontal. La France a choisi d'y rentrer avec les armes de l'adversaire, for sure.
For sure, avec le bel accent. Merci beaucoup Claude Guibal, le reportage c'est tout de suite. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Colombie ce soir où vous allez assister à une transformation, celle d'une ville, Mesetas, au sud de Bogota. Mesetas, c'est un ancien bastion des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, et aujourd'hui c'est une destination d'écotourisme grâce notamment à ses canyons. Mesetas, c'est surtout l'exemple d'une réussite des accords de paix signés avec les FARC en 2016, très 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 critiqués en Colombie. À Mesetas, pour les habitants, c'est une vraie nouvelle vie. Et le reste, c'est Najat Benrabah qui raconte.
Autour de la place principale de la ville de Mesetas, tout semble ordinaire. Les cafés, les billards et les restaurants sont bondés, alors qu'un match de football local a lieu sur un petit terrain municipal. Mais sur un des murs, deux fresques attirent l'attention. La première fait la chronologie des événements de la ville et la deuxième montre un homme en uniforme, des armes et un bombardier avec des mots comme « torture »,« barbarie », »,« FARC », enlèvement armé. Ce passé a marqué le territoire jusqu'en 2016. Sous le pont principal, à l'entrée du village, des dizaines d'embarcations de rafting partent pour un parcours de 17 km dans le canyon du Guéjar. Carlos Andrés Avila est né à Mesetas. Il est guide touristique depuis 5 ans.
Le tourisme se développe ici depuis environ 7 ans, grâce aux accords de paix signés il y a une dizaine d'années sur le territoire colombien. Autrefois, le conflit armé et le contrôle des groupes armés dans la région nous bloquaient. Grâce au tourisme, aujourd'hui, nous, les jeunes, pouvons rester ici dans la région. Auparavant, on finissait nos études et on devait partir pour la ville. Parce qu'ici, le conflit armé était partout. On n'avait aucune opportunité.
Dans l'embarcation du jour, il y a 12 personnes, dont un père de famille venu de Bogota pour les vacances avec sa femme et ses deux enfants. Il profite des sensations fortes entre cascades et parois rocheuses de 100 mètres de hauteur. Eduardo Luis Casañas.
J'aime l'endroit. Je suis venu voir le canyon du Guéjar en voyant des vidéos sur les réseaux sociaux. Je savais déjà que dans cette région, il y avait une problématique liée au conflit armé et qu'on appelait ça une zone rouge. Mais apparemment, c'est réglé maintenant. C'est super calme. Je crois que c'est le plus beau qui a passé à cette région.
Mesetas compte 15 agences de tourisme qui proposent du rafting et des randonnées vers les cascades et les rivières de la région. Adriana Losada guide les visiteurs vers la cascade La Encantada, l'Enchantée. Cette ancienne productrice de feuilles de coca, mère de 3 enfants, travaille dans le tourisme depuis 6 ans.
À cette époque, comme l'économie était dure, il n'y avait pas d'autre travail que la coca. Puis l'État a éradiqué manuellement tous nos champs de coca et on a obtenu des aides pour faire de l'élevage, de l'agriculture, produire du café, de l'avocat. Moi, pour ma part, je me suis concentrée sur le tourisme et mon mari produit du café.
En centre-ville, la fréquentation des hôtels a augmenté après 2016. Uriel Alvarez dirige un établissement créé en 2018 avec des cabanes en bois installées dans la forêt.
On a été obligé de demander des crédits pour étendre la capacité d'hébergement. Nous avons élargi notre offre hôtelière. Malgré tout, il manquait des lits, alors la municipalité a commencé d'autres projets. Nous ne sommes plus seuls maintenant. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Mesetas est reconnu au niveau national et international dans le tourisme. Nous avons des visiteurs étrangers, dont des Français, des Américains, des Européens. Chez nous, la principale clientèle vient d'Europe.
Le tourisme représente aujourd'hui la troisième activité économique de la ville de Mesetas.
Najet Benrabah pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est vous, Guillaume Audin, qui avez l'œil sous les radars.
Sous les radars, un géant de la tech US qui vend ses antennes de liaison radio à qui, tenez-vous bien, à l'armée russe.
Et comme chaque mercredi, Ilana Mor Youssef, c'est l'actualité internationale qui vous fait lire.
Oui, vivre ou travailler, il faut choisir et je vous emmène au Japon ce soir.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Nashville où a enregistré Neil Young. Cette chanson mythique et l'album qui va avec d'ailleurs, Harvest, ça date de 1972, c'est toujours Chewbacca qui choisit la musique pour nous.
So much pain. I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan?
Harvest pour aller chercher l'actualité internationale passée sous les radars. On peut compter sur Guillaume Audin.
Выражаем благодарность группе помощи Народной милиции за предоставленные средства связи.
Et alors là, Guillaume, ce qu'on entend, ce sont deux militaires russes. Nous sommes sur le champ de bataille en Ukraine et ils vantent le matériel de transmission radio made in USA.
Oui, des propos étonnants, pour ne pas dire explosifs. Ils sont rapportés ce mercredi par un média d'investigation américain, Hunter Brook, site plutôt confidentiel, mais sur lequel un quotidien aussi prestigieux que le Wall Street Journal a déjà écrit. Deuxième point, c'est une enquête très documentée, le fruit de plusieurs mois d'investigation. Un travail qui tente à démontrer qu'Ubiquiti, un géant de la tech américain, fournirait à Moscou des équipements de télécommunications sans fil, longue portée, utilisé par l'armée russe pour guider ses drones contre des cibles en Ukraine et parfois même contre des civils. Ce sont des accusations sérieuses, mais des témoignages et des documents à la clé indiquent que les distributeurs officiels de cette marque auraient contourné les sanctions en faisant transiter ce matériel de transmission vers la Russie via des pays tiers. Deux éléments pour finir, le cours de l'action Ubiquiti a chuté depuis la publication de ces informations et son patron, qui possède par ailleurs les Grizzlies, hein, l'équipe de basket de Memphis, n'a toujours pas pris la parole.
Target artifacts stolen or looted,
Une loi dont on parle beaucoup en Afrique, la France, bientôt prête à simplifier la restitution de biens culturels volés.
Des œuvres d'art, des objets religieux notamment, acquis dans des conditions illicites par la France, avant, pendant et après la colonisation, donc entre 1815 et 1972. C'est un vieux tabou auquel se sont attaqués ce mercredi les sénateurs, la restitution de biens pillés, mais surtout la traçabilité, la simplification des processus. 13 pays ont d'ores et déjà effectué des demandes auprès de Paris. Le Bénin, par exemple, pour récupérer son célèbre dieu Gou, une sculpture en fer martelé, emportée en 1858 par les troupes coloniales françaises. Le Sénégal, qui demande les objets du trésor Ségou. L'Algérie, qui réclame les effets personnels du chef religieux et militaire Abdelkader. Et au-delà de l'Afrique, le Mexique aussi, qui tient à revoir deux manuscrits de la période aztèque. Cette loi, elle fait consensus en France. Elle a été votée à l'unanimité des groupes politiques la semaine dernière en commission. De quoi réconcilier les mêmes l'histoire des peuples premiers et l'histoire coloniale française. Bref, de quoi redonner du sens et de la profondeur à ce patrimoine ancestral.
Une dernière pinte à ce bruit. Pour les peuples britanniques, c'est le gouvernement Starmer qui paye sa tournée.
Et à la vôtre, Fabienne, et à la leur, j'ai envie de souhaiter avec modération à tous ces Anglais, ces Écossais, ces Irlandais qui, soulagés, iront s'offrir une bière, le cœur léger après le boulot ou lors d'une rencontre de football. Une bière moins chère, car sous pression, oui, d'un extrait de renonce à supprimer un abattement mis en place pendant le Covid et qui avait permis à des milliers de pubs de surmonter la crise. Elle est profonde, cette crise, depuis les années 2000, pour des tas de raisons, le prix du foncier en particulier, le prix excessif de la pinte. Chaque jour que Dieu fête en Grande-Bretagne, un pub met la clé sous la porte. Stop this! Avec cette remise à plat fiscal, le British Way of Life pousse un ouf de soulagement. On dit comment, Cockney?
Allez savoir.
Cheese my
Ok, ok.
All right.
Guillaume Audin, merci beaucoup. Vous savez comment on sait que la Guinness a été bien tirée? Vous mettez votre initiale sur la mousse, il faut la retrouver au fond du verre. Voilà, je vous aurais appris quelque chose moi aussi. Allez, le mercredi, c'est Ilan Amor Youssef qui lit et relit au fil de l'actualité. Ça s'appelle Écrire le monde.
France Inter.
Un jour dans le monde.
Ce soir, Ilana, c'est la première ministre japonaise qui vous inspire depuis sa prise de fonction. Sanae Takeishi a fait beaucoup parler d'elle. Elle a déclenché notamment une vague de critiques pour avoir convoqué ses collaborateurs à 3h du matin. Elle-même se vante de dormir très peu dans un pays où il existe un mot pour désigner la mort par épuisement professionnel. Ses propos ne se sont pas bien passés, Ilana.
Non, en effet, et ses déclarations, Sanae Takeishi les a faites lors d'une réunion politique retransmise par la chaîne de télévision japonaise TBS News. En ce moment, je dors environ 2 heures par nuit, 4 heures tout au plus. J'ai l'impression que c'est mauvais pour ma peau, dit Sanae Takeishi en montrant les cernes sous ses yeux. Et cela, elle l'a dit, alors que son gouvernement menait précisément des discussions pour augmenter le plafond des heures supplémentaires, limité à, tenez-vous bien, 45 heures par mois. Après le suicide en 2016 d'une jeune employée d'un géant de la publicité, elle avait cumulé plus de 100 heures supplémentaires dans le mois.
Où mène une société où les gens travaillent comme des bêtes de somme? C'est le titre du quotidien Okinawa Times.
Et c'est aussi le sujet abordé dans le roman de ce soir, le roman de Hiroko Oyamada, Le Trou, qui a reçu au Japon le prix Akutagawa, l'équivalent japonais du Goncourt. C'est un roman très court, d'une écriture économe et dont le point de départ est un déménagement, nous explique l'éditrice Julie Le Keniec, responsable de la collection de poche Satellite aux éditions Bourgois.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans, poursuit son mari qui est muté en province, déménage à la campagne, quitte son travail et s'installe dans une maison qui est mitoyenne à celle de ses beaux-parents.
Alors ce déménagement est en réalité un dépaysement total. L'héroïne du roman, Asa, bascule dans un autre univers. Elle passe d'un monde citadin où elle était en CDD, mal payée, écrasée d'heures supplémentaires, se nourrissant de plats préparés, à un monde de solitude absolue, sans travail et même dépouillée de son nom, comme le montre ce passage où une voisine vient frapper à sa porte.
Ça me fait bizarre chaque fois qu'elle m'appelle la jeune épouse. Personne ne l'a jamais fait avant, il me semble. Tant que je travaillais, les gens m'appelaient par mon nom de famille, et même lorsque ce n'était pas le cas, personne n'a jamais dit « la jeune épouse » pour parler de moi. Cela dit, si je me présentais à cette Madame Serra, ça me ferait drôle qu'elle m'appelle Asahi-san, voire Asa-chan, comme ma belle-mère. Pour elle, Madame Matsura désigne une personne de la génération de ma belle-mère. Et mon mari est le fils Matsura. Raison pour laquelle, probablement, je suis la jeune épouse. Voilà donc ce que je suis devenue, une femme mariée. Je le suis depuis un certain temps, et pourtant, je ne m'en étais pas rendu compte.
Et merci à Cyrine Benyounès pour la lecture. Alors, Ilana, cette jeune Assa, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée si elle ne travaille pas ?
Eh bien, elle ne fait pas grand-chose, justement. Son mari travaille tous les jours jusqu'à minuit et plus. Sa belle-mère travaille, son beau-père travaille. Les tâches ménagères, les courses, la cuisine, c'est en général expédié en quelques heures. Et pour elle, le temps se dilate et son environnement aussi se dilate. Le bruit des cigales, la chaleur écrasante, les enfants à l'extérieur, le fleuve à côté de la maison, c'est comme si tout à coup tout ça grossissait jusqu'à occuper une place démesurée. C'est une sorte d'hyper normalité qui devient hyper inquiétante, d'autant qu'en allant se promener un jour, elle rencontre un animal étrange, elle décide de le suivre et elle tombe dans un trou. C'est un clin d'œil évidemment à Alice au Pays des Merveilles. Ce petit accident, c'est le moment de bascule du roman. De façon insensible, son oisiveté lui permet d'entrevoir qu'une autre vie est possible. Une vie où le travail ne gouvernerait pas l'existence entière. Assa, tout en conservant des manières d'épouse idéale, de belle-fille docile, s'achemine vers une remise en question du modèle imposé par la société extrêmement codifiée où elle vit. L'éditrice Julie Le Caniec.
Elle se laisse presque aller à la dérive, à la paresse, avec une forme de culpabilité. Mais en même temps, elle est dans un contexte où on lui donne très peu accès au travail. Jamais un travail épanouissant, surtout. Un travail qui est plutôt aliénant et qui sert finalement à reproduire un schéma social qui est de bâtir une famille, de travailler avec acharnement toute sa vie pour faire vivre ses enfants qui, derrière, à leur tour, reproduiront ce schéma très aliénant de travailler au lieu de vivre.
Alors ce qui est très fort, c'est que l'autrice sème le trouble chez le lecteur. À un certain moment, on ne sait plus très bien s'il se passe vraiment des choses étranges autour de l'héroïne ou si c'est elle, en réalité, qui se met à dérailler. C'est ça, la subversion du roman, le fait de nous laisser dans le trouble et même l'incertitude sur la voie qu'elle va finalement choisir.
Le trou, donc, signé Hiroko Oyamada, traduit du japonais par Sylvain Chupin, publié, il y en a dans la collection de poche satellite des éditions Bourgeois. Merci beaucoup.